Racines du ciel, une émission de Lélie Anvar, avec la participation de Frédéric Lenoir. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Manuel Couturier. Aujourd'hui, nous recevons Éric Geoffroy pour une émission sur la confrérie soufie Alaouia et plus particulièrement son fondateur, le Cheikh Al-Alaoui. Bonjour Éric Geoffroy.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Strasbourg dans une spécialité que l'on nomme dans le monde académique français islamologie, ce qui signifie que vous avez une érudition reconnue dans les sciences coraniques et plus largement islamiques, mais surtout... je pense que c'est ce qui est beaucoup plus important pour nos auditeurs. Vous êtes à la fois un spécialiste mondialement reconnu du soufisme et vous-même engagé personnellement dans un travail spirituel ressortissant de cette tradition. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur ces questions qui sont aujourd'hui des ouvrages de référence. Par exemple, et je n'en citerai que quelques-uns, « La sagesse des maîtres soufis » chez Grasset en 1998, « Le soufisme, voie intérieure de l'islam au seuil » en 2009, un ouvrage plus clairement pédagogique aussi chez Erol, simplement intitulé « Le soufisme » en 2013. Et aussi un livre presque prémonitoire, je dirais, que vous avez publié en 2009 aussi aux éditions du Seuil et qui s'intitulait « L'islam sera spirituel ou ne sera pas ». Et en effet, au regard de l'actualité, quand on vous relit d'une manière un peu différente aujourd'hui. Vous êtes de fait un infatigable pédagogue qui essayait, dans un contexte de plus en plus difficile, il faut quand même le reconnaître, vous essayez de faire entendre la voix de cet islam spirituel qui vous est cher, cet islam qu'on appelle l'islam des lumières, de l'amour, de la paix, de la sagesse aussi, cet islam enfoui sous les décombres du désastre djihadiste et fanatique. C'est cet islam-là qui prône, que prône la confrérie Alaouia, comme beaucoup d'autres confréries d'ailleurs. Cette confrérie Alaouia qui est encore très active et vivante dans de très nombreux pays et dont nous allons parler au cours de cette émission. En effet, vous avez publié en 2014 « Un éblouissement sans fin, la poésie dans le soufisme » aux éditions du Seuil, ouvrage dans lequel vous traduisez et commentez un recueil de poésie de la tradition Alaouia. On verra qu'il y a plusieurs auteurs en fait dans ce recueil, en les insérant plus largement dans la tradition poétique soufie et de sa profondeur spirituelle. Et vous venez aussi de publier dans la revue Ultreya, notre partenaire pour cette émission, un article très fouillé et clair sur le Cheikh Al-Alaoui. Et je profite donc de cette conjonction entre notre émission et la revue Ultreya pour saluer justement le travail de Bernard Chevillat, directeur de la rédaction d'Ultreya, et de Florence Quentin, sa rédactrice en chef, pour la très très grande qualité alors de ce qu'on appelle un MOOC. Hein, Ultreya, c'est une revue-livre, ça fait quand même plus de 200 pages, avec des articles très fouillés, il y a des dossiers qui sont vraiment très complets, avec des signatures très prestigieuses. Et dans chaque numéro paru, en effet, donc il y a des articles, des dossiers, qui sont à la fois très érudits et en même temps très clairs, je dirais. C'est vraiment la ligne éditoriale.
Avec une très belle iconographie également.
Absolument, c'est vrai.
Extrêmement travaillé.
Mais venons-en donc à notre Cheikh Al-Alaoui. Et pour commencer, Éric Geoffroy, situons-le peut-être à la fois dans l'histoire du soufisme et dans l'histoire de l'Algérie. Je sais que c'est une très vaste question, mais je sais aussi qu'en bon pédagogue, vous allez pouvoir nous résumer cette situation du Cheikh Al-Alaoui à l'intérieur de l'histoire du soufisme, en somme.
Le fait est que le Cheikh Alaoui, donc, qui est né, alors les dates de naissance varient, mais entre 1869 et 1874, et qui est décédé en 1934. Donc le Cheikh Alaoui est algérien, il est de Mostaganem, cette ville de l'ouest algérien qui a connu une immigration arabe-andalouse, disons à l'époque médiévale, donc qui a une tradition de musique andalouse, et on verra peut-être que dans la tradition très prononcé chez les Alaouis, donc du sama, c'est-à-dire de l'audition spirituelle et du chant donc spirituel alaoui qui est a cappella, c'est-à-dire vraiment à des voix pures et épurées, je dirais. Eh bien, il y a cette grande présence de fait de ce terreau à la fois poétique et musical. Alors le Cheikh Alaoui est l'héritier, bien sûr, vu qu'il est du fin 19e et puis début 20e, enfin il est bien sûr l'héritier de la grande tradition soufie, donc séculaire et multiséculaire, donc de son cas, chose qu'il a toujours revendiqué. C'est quelqu'un qui est extrêmement marqué par exemple par le poète soufi Ibn al-Farid, qui est mort en syro-égyptien, qui est mort en 1235, et qui est appelé Sultan al-Ashiqin, donc le sultan des amoureux, hein, donc par sa poésie spirituelle. Et puis, il est dans ce lignage de la grande tariqa Chazeliya, qui est une des voix mères, hein, donc une des grandes voix qui sont apparues à l'époque médiévale, c'est-à-dire en fin 12e et 13e siècle, donc, et dont le maître éponyme est Abul Hassan al-Chazeli, qui est mort en 1258. Et puis, on a donc la traçabilité, si je puis dire, on a la chaîne d'or, donc la chaîne initiatique, la silsila, qui parcourt les siècles, et donc avec des grandes figures comme Ahmed Zarrouk au 15e siècle, et comme donc El-Arabi Ed-Arkawi, donc un grand cheikh marocain qui est mort vers 1820, et le cheikh El-Alaoui qui va marquer un nouvel épisode dans cette chaîne initiatique, au point que il va précisément donner son nom à cette nouvelle tariqa qu'il a inauguré il y a un siècle, vers 1914-1915. Alors, le patrimoine est là, c'est-à-dire c'est la voix Chazeliya, et c'est bien sûr la voix mohammedienne, évidemment, comme c'est le cas pour toutes les voix initiatiques dans le monde musulman, dites confrérie en français, mais enfin bon, le terme voix initiatique privée est plus exact. Et à travers cet héritage, il y a tous les prophètes qui sont là, les prophètes Moïse, Moussa, Jésus, etc. Donc, parce que on a dit que le Cheikh Alaoui était marqué par l'un ou l'autre modèle. Et donc, il y a ce patrimoine et cette force, donc, spirituelle de Cheikh Alaoui qui fait que, selon beaucoup, eh bien, il a été perçu comme étant le Mujaddid, c'est-à-dire le rénovateur, non seulement du soufisme, mais du message spirituel, donc, de l'islam, en vertu d'une parole du prophète qui dit qu'au début de chaque siècle, quelqu'un vient pour rénover, pour renouveler, donc, la religion.
Oui, et ça, ce point, d'ailleurs, est très important pour que nos auditeurs se fasse une idée aussi de ce paysage du soufisme dans lequel apparaissent régulièrement effectivement des maîtres qui donnent leur nom d'ailleurs à leur confrérie. C'est le cas ici, les très grands maîtres comme le Cheikh Alaoui ont donné leur nom à la confrérie Alaouia qui elle-même venait était issue d'une confrérie qui portait le nom d'un autre cheikh.
Chazeliya, Darkaouia, Alaouia.
Voilà, donc c'est pas, il faut qu'on le comprenne bien que ce ne sont pas des confréries rivales, mais que c'est bien des couleurs, des parfums différents qui sont dus à un maître donné, à un moment donné de l'histoire ou dans une région géographique particulière, et que finalement tout ça constitue la grande mosaïque du soufisme qui est elle-même constitutive de la grande mosaïque de l'islam spirituel.
Exactement, tout à fait. Et il n'y a pas cet exclusivisme. La voix Chazeliya, notamment, dans toutes ses branches, donc répandues jusqu'en Indonésie, n'a jamais été dans un certain confrérisme qui existe encore, moins maintenant, mais qui existe encore, il faut le dire. Elle a toujours été dans cette ouverture de l'esprit, du souffle spirituel qui est là pour rayonner non seulement dans les milieux soufi patenté, enfin dit spirituel, mais également dans les milieux musulmans en général et au-delà, puisque peut-être on le verra, une des vocations de cette voix donc Alaouia a été et est d'être diffusée, d'être entendue, d'être en partage avec d'autres traditions spirituelles dans le monde et entre autres en Occident et en Occident moderne et contemporain.
Alors, qu'est-ce que vous diriez, si on vous pose la question de savoir quelle est la spécificité de cette Chazeliya et à l'intérieur de cette voix particulière, celle du Cheikh Alaoui? C'est-à-dire, comment il a revivifié cela. Mais déjà, au départ, quelle est sa spécificité, cette voie, par rapport...
Tout à fait.
Outre le fait que c'est une voie particulièrement, en effet, ouverte.
On est donc au XIIIe siècle, hein, donc avec Abul Hassan Chazili et ses successeurs. Et c'est une voie très moderne pour l'époque, parce que jusqu'à présent, beaucoup donc, de soufis ou de derviches menaient une vie errante, étaient mendiants, donc revêtaient un habit, donc El Moraka, vous voyez, enfin, donc un habit de bure grossière, souvent rapiécé, en signe de pauvreté extérieure. Et Abou Hassan Chazili dit non, la pauvreté, c'est-à-dire ontologique, face à Dieu le riche, elle est intérieure. Elle est intérieure, et donc Abou Hassan Chazili, on est au XIIIe siècle, met l'accent sur le travail. Et il dit qu'il préfère le riche bien vêtu, et de fait les chers donc Chazili, au cours des siècles, seront souvent vêtus de beaux habits blancs, hein, très très souvent. Donc il préfère le riche plein, qui rend grâce, hein, aux pauvres qui manifeste une indigence, mais qui n'est plus en phase avec la société déjà de l'époque, c'est-à-dire déjà du XIIIe siècle. Vous voyez? Alors, sur un plan plus directement spirituel, la voie Chazilia est très épurée, comme j'ai dit un petit peu avant. Elle met l'accent sur l'invocation du nom Allah, donc le nom de l'essence donc de Dieu en islam, et qui synthétise tous les noms divins. Donc la voie Alawiya va être créée principalement sur le mobile que les Chazili d'Arkawi, auquel était rattaché bien sûr le cher Ahmed al-Alawi, avant de fonder sa propre voie, ne pratiquait pas ou plus beaucoup la khalwa. La khalwa, c'est la retraite initiatique. Maintenant, elle est pratiquée le plus souvent 3 jours et 3 nuits, mais lorsque le cher Alawi mettait quelqu'un en khalwa, cette personne ne savait pas quand elle allait sortir, parce qu'il pouvait obtenir le fatr, c'est-à-dire l'ouverture spirituelle, au bout de quelques heures, voire quelques minutes, comme d'autres restaient des semaines.
Et pendant cette khalwa, on répète en fait ce nom, voilà. Les noms de Dieu.
Donc, bien sûr, ce sont donc des invocations qui sont très intenses, et puis il y a un cadre sacralisé donc de la khalwa, et donc il faut bien sûr le izn, c'est-à-dire l'autorisation du maître spirituel, parce que c'est quand même quelque chose qui est très intense. Les noms divins sont des énergies très vivantes et qui sont parfois ambivalentes. Bon, je dis pas ambiguë, mais ambivalentes.
Bon, symbolique même, dit-on.
Oui, voilà, tout à fait. Et donc le cheikh Alaoui va mettre l'accent vraiment sur cette pratique. Et là on retrouve l'essence de la voie Chazilia à ses débuts, et finalement l'essence de l'enseignement mohammedien, hein, ce que dit le prophète à Ali et à quelques compagnons, c'est ne vous arrêtez pas aux phénomènes surnaturels, voire à des charismes, à des karamates, donc à des miracles en cours de route. Ne vous arrêtez pas même aux dons, à des faveurs, à des visions.
À des états d'extase.
Etc. À des extases. Le but, c'est Houa. C'est lui. Alors je dis lui, mais en fait, c'est lui et elle. Parce que nous sommes bien sûr dans l'essence divine, et le cheikh Alaoui est très abrupt là-dessus. Il est très vertical dans son enseignement spirituel, et il dit qu'il ne faut pas s'attacher trop aux attributs divins, qui sont multiples, et qui sont donc comme autant de miséricordes de Dieu l'unique dans son unitude, qui se fait pluriel pour pouvoir se mettre à la portée de l'homme. La méthode du cheikh Alaoui, la méthode foncière est réelle. Donc du cher, c'est de viser l'essence. Et donc du coup, voilà, ne pas se laisser troubler par ces hochets, hein, donc comme disent certains soufis au cours des âges, par ces joujoux, hein, par ces gadgets, bon, voilà, que sont les miracles, que sont les faveurs surnaturelles, mais il faut toujours tracer et ne jamais s'arrêter, et toujours donc viser sa face. Et quand je disais elle, c'est parce que dans cette réintégration, dans cette résorption de l'unicité, il n'y a, bien sûr, il n'est plus sexué. Hein, God, Dieu, Allah n'est pas sexué. Et il est, bien sûr, au-delà, hein, bien en amont de la sexuation.
Enfin,
de
Alors, la... en effet, il n'est pas sexué, mais très souvent, dans ces poèmes que vous traduisez, on va y venir justement à ce recueil de poésie de la tradition Alaoui, il se présente sous la forme d'un visage féminin tout de même, être sexué, évidemment.
Eh oui. Oui,
il a un nom féminin, il se présente, l'essence se présente à Laurent, qui ensuite le dit en poème, sous le trait d'un visage féminin.
Et oui,
la face de Dieu serait une face de beauté féminine.
Et là, bien sûr, la référence qui s'impose, c'est en fait Ibn Arabi, donc le grand cheikh qui est mort en 1240, et qui nous dit donc dans les Fusus al-Hikam, donc les chatons des sagesses, qui est une œuvre maîtresse chez lui, et qui nous dit que la théophanie, c'est-à-dire la manifestation divine la plus accomplie sur terre, est la femme. Et bon, ça c'est un terme, bon, mais c'est pas un slogan, c'est-à-dire que toute sa doctrine est celle de ses disciples, tels que l'imam Abdelkader, et celle du vécu soufi, en fait, en général, ça va être justement cette perception de la beauté divine dans le monde. Et il faut dire que les premiers soufis, dès le 9e siècle, donc l'école de Bagdad, avec Junaid et beaucoup d'autres, s'inscrivent en faux et critiquent les zohats, les premiers ascètes qui refusent le monde. Et en fait, les soufis arrivent et leur disent mais en fait, vous luttez contre ce qui est illusoire. Ce bas monde est radicalement, en fait, illusoire. Relativement, il est donc réel, mais, et là on est en pleine physique quantique, mais radicalement, il est illusoire, il est pur néant. Donc, saisissez plutôt la beauté de Dieu dans ce qu'il a créé.
Paradoxalement, donc, dans cette illusion. Presque, l'illusion est en même temps un lieu où se manifeste la beauté divine.
Tout à fait. Donc, c'est ce paradoxe qui fait toute la vie spirituelle en soufisme et dans toutes les traditions spirituelles, mais en soufisme en particulier, puisque c'est la voie de l'unicité. Puisque le seul principe de l'islam, et ça il faudra le rappeler encore et toujours, c'est l'unicité. Tout le reste, c'est du décor. C'est-à-dire, tout découle, en fait, de cette unicité. Alors, en effet, donc, nos poètes soufis, dont le cheikh Alaoui, mais d'autres avant lui, parlent de Leïla. Il susurre, je dirais, le nom donc de l'essence divine par ses prénoms donc féminins, en effet, et qui peuvent bien sûr s'incarner dans des femmes, donc physiquement incarnées, encore une fois, Leïla, Maya, Lubna. Parce qu'il faut dire, encore une fois, c'est que c'était pas sexué là aussi, puisque je vous citerai par exemple Aïcha El-Barounia, qui est une femme soufie poétesse donc d'Égypte du XVIe siècle, et qui a un très beau poème, bon, que j'ai parlé d'ailleurs, où elle s'adresse à Leïla.
Oui, bien sûr, ça je l'ai remarqué, les femmes soufis s'adressent tout autant à Leïla que les hommes. Donc ça prouve bien que c'est une sorte de figure de manifestation.
Voilà. Peut-être qu'on peut glisser très rapidement que dans toutes les sourates sauf une, dans cette basmala, c'est-à-dire au nom de Dieu, donc Rahman al-Rahim, donc le très miséricordieux, le tout miséricordieux, ben la racine donc sémitique, c'est Raham, c'est la matrice féminine. Il faut le rappeler parce que il faut le rappeler aux musulmans, aux non-musulmans.
Voilà, oui, c'est ce qui a mené André Chouraki à un acte radical de traduire cette formule par le Dieu, le matricien, le matriciel.
Alors, est-ce qu'il faut formaliser, c'est autre chose, mais en tous les cas, dans le subtil et dans le monde allusif et donc dans le monde spirituel, oui, Dieu a cette essence, maternelle, qui fait que dans son unicité, il peut englober cette infinie complexité de la vie.
Oui, et c'est d'ailleurs ce côté maternel, on y songe aussi quand dans les développements de cette voie alaouïa, dont vous nous dites qu'elle a eu évidemment beaucoup d'influence et beaucoup d'héritiers. Et entre autres, dans une voie qu'on appelle la Mariamia, qui précisément porte le nom de Marie, qui est un nom de mère par excellence, qui va accoucher du Jésus, de l'âme de chacun, d'une certaine façon. Éric Geoffroy, expliquez-nous ce que c'est que cette Mariamia, puisque nous parlons de la matrice. Alors, on va un petit peu aller
bien sûr.
Parcourir les années et parler
alors
de Friedrich Schwann.
On va dire en tant que, enfin bon, étant donné la personnalité spirituelle donc du cheikh Alaoui et son charisme, disons vraiment donc très très particulier et qui est assez peu commun, il a eu, on va dire, plusieurs personnes ont bu à sa source, on va dire les choses comme ça, dont Friedrich Schwann. Donc, ce grand métaphysicien, suisse, disons, qui est entre l'Alsace et la Suisse, qui a vécu à Bâle longtemps.
Sur qui, d'ailleurs, nous ferons une émission dans les mois à venir.
D'accord. Très bien.
C'est prévu.
Et qui est mort en 1998. Et Chuan, donc, conseillé par René Guénon. René Guénon, donc, qui va au Caire. Donc, ce grand aussi, bon, cet autre grand métaphysicien, évidemment, bon, connu, je pense, par le public, recommandait, sans l'avoir vu physiquement, donc, le Cheikh Alaoui, il le recommandait à ceux, et surtout aux Européens, qui étaient en quête d'une voie soufie. Et donc, Chuan se rend à Mostaganem en 1933, donc quelques mois avant la mort du cher Ahmed El Alaoui, et donc il prend le rattachement là, et après donc il reviendra et il sera désigné par le successeur à Mostaganem donc du cher Alaoui, donc le cher Adda Ben Tounes, donc le grand-père du cher Khaled Ben Tounes,
qui donc, est aujourd'hui en charge.
Voilà, en charge actuellement, enfin depuis 40 ans. Donc le cher Adda va le mettre en khalwa, donc en retraite spirituelle, et lui donner la permission, en fait, de diffuser en fait la voix en Europe, disons. Donc Chuan, une fois retourné en Europe, a lui donc sa propre ouverture, disons spirituelle, bien sûr, et à partir de là, il va donc créer vers 1936, je crois, la Tariqa Mariamia, donc la voix de Marie. Hein? Mais ce n'est pas étonnant parce que le cheikh Adda Ben Tounes, par exemple, a lui-même un texte très très beau qui s'appelle « Jésus, âme de Dieu ».
Oui. Vous en parlez longuement dans le livre.
Voilà. Et donc il dit, si les chrétiens connaissaient l'amour que j'ai pour Jésus, ils viendraient humer mon haleine. Vous voyez. Donc il y a ce caractère en effet christique dans la voix alaouia, mais christique. Attention, l'amour christique, c'est pas un amour bradé, c'est pas un amour sentimental, c'est un amour qui décape. Vous voyez ce que je veux dire. C'est un amour. Très exigeant.
Et d'ailleurs, ça, vous en parlez beaucoup de cela, c'est-à-dire, vous parlez beaucoup de la poésie dans le soufisme, mais vous montrez en même temps que cette poésie, qui est, quand elle est dans la bouche, quand elle vient de la part de gens qui ne sont pas des poètes, mais des grands maîtres réalisés, je dirais, sur le plan intérieur, en réalité, elle est la conséquence d'un grand travail de décapage personnel qu'ils ont d'abord accompli avant de pouvoir avoir des visions qui se transforment ensuite en poésie. Et vous le montrez de manière très, très fine et très précise, et je crois que c'est très important. C'est-à-dire que la poésie spirituelle, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, soufie ou que ce soit Jean de la Croix ou autre, ne peut être que le résultat d'un immense travail de décapage de l'ego, sans lequel, évidemment, les voiles ne peuvent pas se lever, et par conséquent, l'inspiration véritablement poétique ne peut pas avoir lieu. Éric Geoffroy.
Oui. Alors, dans le cas du cheikh Alaoui, en fait, ses poèmes, donc, bon, poèmes d'extase, poèmes sur la voix, mais aussi poèmes d'extase, poèmes du fana, c'est-à-dire poèmes d'extinction de l'individualité humaine et de la conscience humaine incarnée dans l'océan de l'unicité divine, tout cela s'est fait très tôt chez lui. Et d'abord pour dire que, alors qu'il était encore disciple donc de son cher...
Mais aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Voilà. Je veux dire, il a quand même travaillé sur son ego, même très jeune.
Certes, mais disons que de manière incontestable, il y a eu un fatre, en fait une ouverture spirituelle très très tôt, alors qu'il était encore disciple, au point que des ma'ani, comme on dit en arabe, c'est-à-dire des sens et des réalités spirituelles donc étaient en lui, et en fait il a dû en accoucher, et son maître l'a dit, accouche, écrit. Donc il écrit des textes majeurs tels que El Minah al-Kudusiya, donc les très saintes inspirations qui ont été traduites récemment en français, et donc qui sont un commentaire ésotérique en fait du rituel islamique. Donc déjà disciple, il est dans cet état, enfin dans cette impétuosité, je dirais, donc de l'état spirituel. Et une fois devenu cheikh, donc et même déjà encore disciple, il écrit des poèmes attribués à son cheikh, mais en fait, qui sont de lui. Et ces poèmes vont être égrenés jusqu'aux années, en fait, 1920. Et après, donc un peu plus tard à la fin de sa vie, il dira que lorsqu'il a reçu en fait ces poèmes, il était dans un état très particulier. Juste pour vous dire, c'est que il en général, il les recevait donc la nuit. Et donc au matin, celui qui était encore son proche et son serviteur, donc Agda Ben Tounes, qui allait donc devenir son successeur,
et qui a aussi, dont les poèmes sont aussi dans ce recueil, et
également écrit aussi des très très riches poèmes. Eh bien, prenez ces poèmes. Sauf que le Cheikh Alaoui disait non, celui-ci, tu le brûles, parce que il y a des choses qui ne sont pas audibles, même pour les disciples.
Alors justement, peut-être on peut en lire un de ces poèmes. Il y en a un que j'aime beaucoup parce que justement il montre que le poème, c'est le résultat d'une levée des voiles et en même temps c'est une invitation pour celui qui peut reprendre le poème et le méditer et l'intérioriser, une invitation à son tour lever ses voiles qu'il faut évidemment supprimer les uns après les autres afin d'arriver à l'union finale. Les voiles disparurent totalement. Lorsque mon bien-aimé m'apparut. Ô vous, amants, voici venu le moment de la vision. Quiconque désire prendre part à notre secret scellé, qu'il s'approche et apprenne, des sciences lui apparaîtront. Quel excellent breuvage, les chansons y invita. Ô vous, amants, voici venu le moment de l'éveil. Les êtres spirituels s'éveillèrent à mon vin lorsqu'ils furent raffinés, à l'élixir ils goûtèrent, servi par les chansons. L'amant en perdit la raison, un vin vieux, délicieux. Ô vous, amant, voici venu le moment de la vision. Le tavernier le répandit à tous les convives enivrés, les voiles se déchirèrent, mais l'être voilé, qu'en connaît-il? Le malheureux, que de peine il me donna, ce qu'il en est, il ne sait pas. Ô vous, amant, voici venu le moment de l'éveil. Alors, Éric Geoffroy, c'est vous qui avez traduit, fort bien traduit, évidemment, mais ça a un autre goût, bien sûr, dans la langue originale. Alors, si vous le voulez bien, puisque ce poème est d'ailleurs dit dans certaines des cérémonies de la confrérie Alaouia, est-ce que vous voulez bien nous dire, peut-être commencer par le psalmodier, et puis nous dire ce poème en langue originale, c'est-à-dire en langue arabe?
Ah, je peux vous en... Alors, je ne suis pas un moussamia, donc invétéré, je ne suis pas invétéré, mais bon, je crois qu'il faut... On peut rendre compte un petit peu, je crois, de ces... En effet, de ce que peut être le sama, donc en toute modestie, évidemment.
Donc là, le sama, l'audition mystique.
Voilà, donc l'audition mystique. Fakad zalat al-ruhub عن حبي حين بدا عيع شاق المحبوب وقت شود هذا عيع شاق المحبوب وقت شود هذا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Voilà. Et bon, et en plus, je suis grippé, donc mes compétences sont très limitées, mais le sama alaoui, émet, bon, bien sûr, on le trouve dans d'autres expressions soufis, mais c'est vrai que des gens d'autres confréries souvent le disent, ils s'en dégagent une profonde nostalgie qui évoque d'ailleurs Rumi, à vrai dire. Une profonde nostalgie, donc de retour.
Oui, c'est-à-dire la fonction, c'est d'éveiller l'âme au fait qu'elle est en exil et donc réveiller en elle cette nostalgie qui est le moteur, en fait, du retour.
Tout à fait. Et c'est le zikr, en fait, le principe du zikr, qui est ce mot très sémantique, enfin, très séminal en arabe, c'est-à-dire l'invocation, souvenir de Dieu. Le sama, donc, en est une autre, puisque, en fait, on écoute en ce monde de l'incarnation. On retrouve donc, par symbole, mais au sens fort du terme symbole, eh bien on retrouve cette voix divine, suave, que nous avons entendue lors du pacte primordial.
Alors, on sent, quand vous avez lu, on sent chez vous une certaine émotion, donc je voudrais vous poser une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous avez fait ce genre de khalwa et quelle a été votre propre expérience de la retraite initiatique dans laquelle on fait ce travail de répéter le nom de Dieu ou éventuellement ces poèmes qui sont destinés quand même à réveiller l'âme? Éric Geoffroy.
Oui, 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 ça fait déjà plusieurs années que je, enfin, on organise des khalwa collectives, bien sûr, avec la permission du Cher, parce que c'est quelque chose qu'encore une fois, qu'on ne manie pas comme ça. Et donc, voilà, enfin, bon, je suis responsable, mais en fait, nous sommes dans le cercle, et nous pouvons aller jusqu'à une trentaine de personnes. Voilà, et donc, nous nous retrouvons dans un monastère de sœurs franciscaines. Voilà, parce qu'il nous faut une salle, donc, spéciale. Elles ont l'habitude, on fait ça deux fois par an. Et voilà, des gens qui viennent de France, de Suisse, de Belgique, d'ailleurs. Et donc, il y a toujours ce noyau, ce noyau de fidèles. Et puis, il y a toujours des gens nouveaux. Voilà, donc c'est à la fois très exigeant et en même temps, il y a cette protection que l'on sent très, très clairement. Et puis après, chacun vit ce qu'il a à vivre. Et le travail, vous savez, se fait aussi après la khalwa, et surtout entre deux khalwa.
C'est-à-dire que
la khalwa, c'est un catalyseur initiatique. Hein, c'est quelque chose qui précipite. C'est en fait un condensé initiatique. Hein, et c'est pour ça que, dans la Halawiya, mais peut-être aussi ailleurs, certaines formes sont retirées et sont résorbées. Et là, on peut penser au fait que, Dieu résorbe, les espèces végétales, les espèces animales, parce que chaque jour, il y a des espèces qui disparaissent. Eh bien, il y a aussi des formes confrériques qui disparaissent. Pourquoi? Parce qu'on va passer à autre chose, sans doute bientôt. Et donc, par contre, la Halawa, voilà, trois jours, trois nuits dans notre cas, c'est quelque chose qui est vraiment préservé et qui est très vivement en fait encouragé, parce que voilà, c'est un temps limité, mais qui va donner, enfin qui est très dense, hein, qui est vraiment très dense et qui va pouvoir permettre entre deux khalwa, entre deux retraites, de continuer à faire tomber les voiles, comme on l'a c'est bien dit avant, à faire tomber les voiles.
Mais alors c'est sous une forme de travail sur soi, de prière quotidienne, d'actes particuliers.
Vous savez, l'initiation agit à notre insu. Hein, bon, qu'elles viennent du Cher, qu'elles viennent de notre maître intérieur, qu'elles viennent de Sedna Khadir, d'un saint défunt, ou de prophète, ou de, il y a des supports, on peut avoir des visions, etc. Mais, ce qui compte, c'est, encore une fois, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à ces visions même, ce qui compte, c'est d'être dans cette lucidité, de ce qui survient, dans cette radicale, humilité. Hein, et seul ce détachement, y compris des charismes, permet d'être dans l'humilité. Et c'est vraiment la voie qui est donc, qui est vraiment donc suivie actuellement. Mais c'est un déchirement, puisque les formes confrériques elles-mêmes, donc non seulement islamiques, mais même confrériques, multiséculaires, sont en train d'être, d'être à résorber.
Oui, mais peut-être aussi parce que comme toute forme, j'allais dire comme toute institution, comme toute église, d'une certaine façon, il y a toujours le danger de la pétrification. Donc il faut sans cesse le renouveler de l'intérieur.
Tout à fait. Et donc là, il y a une véritable épuration, parce que le soufisme, c'est quoi? C'est la spiritualité donc de l'islam. C'est vraiment le souffle de l'islam. C'est le cœur vivant et chaud de l'islam. Eh bien, il n'est pas confrérique. Je veux dire, le tasawwuf, c'est l'esprit qui est dans cette forme islamique, dans le Coran, dans l'enseignement mohammedien et de tous les saints, donc de tous les siècles. Et donc, il doit être... il épouse la vie. Je veux dire, si la voie spirituelle, quelle qu'elle soit, n'épouse pas la vie de manière la plus authentique, alors là... autant être un simple piétiste, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, et d'ailleurs, vous insistez beaucoup dans cet article que vous publiez dans Ultreya, qui s'intitule d'ailleurs « Le Cheikh Ahmad Al-Halawi ou la souveraineté de l'expérience spirituelle », mais vous insistez beaucoup que cette souveraineté de l'expérience spirituelle, elle se fait avec le temps, tel qu'il est. Je sais pas, par exemple, c'est un homme tout à fait moderne, ou pas du tout opposé à tout ce que la modernité peut apporter, y compris sur le plan vestimentaire, d'ailleurs. Lui, il est habillé, évidemment, comme un cheikh, parce qu'il vit en Algérie, mais il recommande à ses disciples en Europe de s'habiller tout à fait normalement.
Tout à fait. Et là, on est en 1920. Mmh. Voyez.
Oui, et il enseigne, vous dites, à sa fille adoptive à nager, à monter à cheval, etc.
Tout
donc, le statut de la femme, la modernité, tous ces éléments-là.
Le journalisme, c'est-à-dire un être qui, bon, par essence, c'est vraiment quelqu'un de très, bon, de fondamentalement donc spirituel. Vous savez, lorsqu'il dit, voilà, bon, par exemple, bon, ce qu'il dit de lui-même, de ses poèmes, ne me cherche pas parmi les abdals, ni parmi les soufis, ni même parmi les parfaits, et non plus parmi les entités spirituelles. Je suis d'une espèce élevée, rare, un principe mystérieux, sans modalité. Donc, un être qui vit ses états, bon, après, il revient à la lucidité, donc, duelle et dualiste, mais voilà. Donc, il a vécu, donc, des états d'unicité déroutantes pour l'être humain qui, bon, et qui était quand même. Or, voilà que cet être a dû, enfin, lui et d'autres, bien sûr, mais a dû, et donc il y a un siècle, se faire journaliste. Vous voyez, et pourquoi? Ben, pour lutter déjà contre les salafistes de l'époque.
Alors, ça, c'est le point très important. C'est-à-dire, vraiment, pour vous, c'est vraiment le cœur dans l'actualité. Hein. C'est vraiment,
ben oui.
C'est au cœur
ben.
De notre sujet. Parce que déjà à l'époque, il lutte contre les salafistes. Il n'est pas le seul. Au fond, la tradition soufie n'est-elle pas, et comme vous le dites un peu de manière provocante dans le titre de votre livre, hein, vous dites l'islam sera spirituel ou ne sera pas. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire que la tradition soufie, c'est ce qui permet au fond à l'islam de rester vivant, et que s'il n'y avait pas ça...
C'est le principe de vie.
C'est le principe de mort qui gagne, comme on l'a pu le voir.
On le voit, tout à fait. Donc là, c'est, vous savez, lorsque mon livre donc est paru, donc l'islam sera spirituel ou ne sera plus, donc en 2009, bon, quelques personnes étaient un peu choquées bon, par le titre, et des gens m'ont écrit, il y a quelques mois, après les attentats donc de Charlie Hebdo, avant ceux du 13 novembre, plusieurs personnes m'ont écrit en me disant, vous savez, lorsque le livre est paru, de fait, on trouvait le titre provocateur, etc. Mais on voit combien il était donc prémonitoire. Donc, malheureusement, je dirais, nous sommes actuellement dans le cadre islamique et, bon, dans certains contextes, hein, bon, tels que le wahhabisme, parce qu'il faut le dénoncer maintenant de manière très, très claire, donc en Arabie Saoudite et puis dans d'autres formes et tout ce qu'il a donc exporté dans le monde musulman et au sein de l'Occident, nous sommes dans un matérialisme religieux. Hein, c'est du matérialisme, on le voit avec les pays du Golfe, hein, c'est du, bon, la grosse finance internationale souveraine islamique. Donc, on est dans un matérialisme religieux, donc avec et qui trimballe un lot d'hypocrisie terrible. Dans la spiritualité, on ne peut pas être hypocrite, parce que sinon, là, le haq, le réel tranche.
Oui, c'est d'ailleurs, je crois, le pire péché dans le Coran, vraiment le pire des péchés, c'est quand même l'hypocrisie.
L'hypocrisie, tout à fait, tout à fait. Et donc, et c'est là où, en effet, y compris les formes, des formes religieuses, islamiques et autres, bien sûr, eh bien, qui sont déjà, en fait, on est le même morte, et donc qui portent la mort, donc elles sont mortifères, et donc on le voit, eh bien, vont, enfin, doivent être combattues, bien sûr, évidemment, mais vont, doivent être, en tous les cas, alors, revitalisées, parce qu'il ne faut pas laisser le terme islam, je veux dire, aux djihadistes, aux islamistes, non, mais il faut le revitaliser.
Oui, et... parce que quand même, ils l'utilisent, donc, en oui. Attendant, que
bien
faire
sûr. Bien sûr, tout à fait. Donc, il faut simplement rappeler que toute religion a pour fondement, en fait, un message spirituel, sinon ce n'est que de l'idéologie. Asservi, instrumentalisé à des buts politiques, économiques, etc., etc. Donc, on peut tricher avec la religion, et ça, on le voit partout, dans toutes les religions, mais la spiritualité est cette force verticale qui, je crois, va s'imposer de plus en plus, parce qu'on n'aura pas le choix, source verticale, mais qui est englobante. Bon, c'est-à-dire, c'est pas une bulle éthérée, c'est quelque chose qui aide à saisir le champ donc du vivant global et donc à comprendre ce qui se passe dans la crise écologique, dans nos comportements consuméristes, dans la finance internationale. Donc la spiritualité, c'est ça. C'est pas en fait uniquement voilà avoir des états spirituels. Non, non, non. C'est incarner ici et maintenant cette force et cette énergie. Donc, qui vient du divin, qui vient des prophètes, pour restaurer l'humain dans son humanité, c'est-à-dire dans sa divinité. Parce qu'on peut dire en islam que l'humain est divin, puisque vu qu'il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de, voyez. Donc, le spirituel, et ça, historiquement, en temps de crise, on le voit, les soufis ont toujours eu cette mission de ramener à l'essentiel. voyez. Et donc, il s'agit de restaurer cette axialité intérieure qui est en nous, cette axialité donc qui est celle de l'unicité divine et qui nous pénètre spirituellement, bien sûr, pas en substance, et pour que nous soyons témoins. Témoin sur terre, et donc ça implique la responsabilité. Donc, en islam et dans le soufisme, la spiritualité, c'est la responsabilité.
Et c'est vrai que l'action, même encore aujourd'hui, puisque ça continue, comme vous le disiez, aujourd'hui, le cheikh Khaled Ben Tounes s'occupe maintenant de cette confrérie Alaouia, et c'est vrai qu'elle est extrêmement active, elle a été depuis le début, sur un plan aussi social, d'éducation, aussi des masses, c'est-à-dire que il me semble qu'une des spécificités de cette voie, c'est qu'elle fait sortir le soufisme d'un côté un peu élitiste. C'est vrai qu'on peut penser que le soufisme, c'est quand même une élite de l'élite, de l'élite spirituelle. Mais là, non, il y a vraiment un travail qui est fait depuis le cheikh Alaoui lui-même pour que ce soit un phénomène plus de masse. Et c'est vrai que c'est un travail très précieux, évidemment, qui est de longue haleine, parce que avant que tous les musulmans de France et de Navarre et d'ailleurs soient instruits en fait de ces vérités profondes de l'islam, il va falloir beaucoup travailler. Mais c'est vrai que c'est une des spécificités de cette confrérie-là, d'être extrêmement active au niveau le plus populaire possible et de ne pas se cantonner à une élite.
Tout à fait. Et d'insuffler encore une fois la spiritualité dans les grands défis contemporains. D'où par exemple donc le congrès qui a eu lieu à l'UNESCO fin septembre donc 2015, donc l'islam spirituel et les défis contemporains. Donc c'est et de fait sous les même dans le rapport de maître à disciple, c'est ce qui est demandé par le cheikh Ben Tounes lui-même, c'est-à-dire il est un de la fraternité, un dans le cercle. Et parce que sinon c'est trop facile de reporter sur le cher, sur la tariqa, l'expérience spirituelle, et ainsi je me dédouane. Non, encore une fois, il faut se responsabiliser et il faut devenir autonome et puis s'assumer. Et le cher, ça le demande, mais d'autres, bien sûr, donc le demande depuis des décennies, mais le système confrérique pèse à ce niveau-là. Et peut-être qu'on pourra en parler un petit peu, mais c'est pour ça qu'il y a cette fondation Conscience Soufie.
Voilà, j'allais vous dire.
Qui
avez créé cela avec
donc,
des amis, oui.
Voilà, donc en cours de création, bon, je suis le président, mais pour le moment, qui est donc une fondation donc à vocation internationale et qui n'a pas du tout vocation à se substituer aux confréries, mais qui est hors confrérie. C'est-à-dire, elle va viser à permettre la diffusion donc plus transparente du message et de l'énergie du soufisme dans le monde, parce que il y a des non-musulmans qui sont très intéressés mais qui ne veulent pas rentrer soit dans le système confrérique voire même en islam. Donc là il faut voir un petit peu tout ça est un peu délicat. Il y a aussi des musulmans qui ne veulent pas entrer dans le système confrérique qui a ses avantages mais qui a comme beaucoup maintenant donc d'inconvénients. Et il y a même des gens qui sont rattachés donc dans telle ou telle confrérie, et moi j'en rencontre beaucoup, et qui ne trouvent pas leur nourriture parce que soit il n'y a plus de chair, soit ce sont donc des confréries internationales, et donc il n'y a plus du tout d'enseignement, enfin tous les cas formels.
Oui, c'est très dilué.
Voilà. Oui. Donc cette fondation a pour vocation, encore une fois, de permettre de non pas de brader, de se substituer à l'enseignement des maîtres, lorsqu'il y en a encore, mais à être ce liant, à être cette trame de miséricorde. C'est tout, parce qu'on voit tellement de gens en déshérence, en manque de repères actuellement dans le monde, en France et ailleurs, que ma foi, le soufisme peut apporter, enfin l'islam spirituel peut et doit apporter son concours parmi d'autres spiritualités.
Et peut-être que du coup, on peut terminer aussi, à nouveau par un poème du cheikh Alaoui, alors qui parle du maître spirituel qui fera sortir l'âme de sa prison étroite. Mais je crois que ce poème, on peut l'étendre effectivement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le maître spirituel, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est en chair et en os, mais ça peut être aussi le maître intérieur, ça peut être aussi un enseignement, ça peut être une connexion intérieure avec une puissance, quelle qu'elle soit.
Dit qu'il est pour maître un cheval, un chien, une chèvre.
Voilà, absolument. Et que fait, c'est quoi la fonction de ce de cet enseignant, de ce maître spirituel, c'est précisément de nous libérer de nous-mêmes pour que nous puissions arriver à nous-mêmes. C'est ainsi, en tout cas, que le conçoit le Cheikh Al-Alaoui. Il te fera sortir de la prison étroite vers l'espace, l'espace absolu, l'espace primordial. Jusqu'à ce que tu vois que l'univers n'est rien en soi, totalement insignifiant est-il dans la munificence du Seigneur. Et si cette munificence apparaît, tu t'annihileras en elle, car depuis l'origine, tu n'as pas d'être en propre. Tu ne savais pas qui tu étais, mais non toi. Tu subsisteras alors, mais sans toi, sans force ni puissance. Après ton extinction, tu t'élèveras à la surexistence, à la surexistance de la surexistence, à la limite du sublime. Merci beaucoup, Éric Geoffroy,
d'être
venu nous rendre visite aux racines du ciel. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru au Seuil, Un éblouissement sans fin, la poésie dans le soufisme. Votre article est donc paru dans le numéro de janvier, le numéro 6 de Ultreya. Je voulais aussi signaler le site de la confrérie Alaouia, www.aïssa-ong.org. Alors je vous renvoie à ce site parce qu'ils cherchent en ce moment, ils ont lancé une pétition pour créer à l'ONU une journée du vivre ensemble. Et donc ils sont preneurs de toute signature parce qu'il faut qu'ils en aient 1 million pour que cette journée soit établie au niveau donc de l'organisation internationale, donc de l'ONU. Je vous renvoie à ce site si vous souhaitez signer une telle pétition. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Leïli Anvar. La semaine prochaine, c'est Magda Hollander-Lafont qui nous recevra chez elle pour un nouveau volet de la série Grand Témoin. Il est temps maintenant de retrouver Les Chemins de Sagesse, la chronique de Frédéric Lenoir.
Alors au cours de ces émissions, j'ai déjà plusieurs fois évoqué une notion très importante sur laquelle je voudrais revenir un peu plus longtemps, qui est la notion de désir. J'ai vu effectivement à quel point le désir était important. Il est très présent, c'est le cœur, c'est l'essence même de l'homme, comme nous dit Spinoza. Et la question du désir est directement liée à la question du bonheur, à la question de la sagesse. Parce que bien souvent, malheureusement, c'est à cause du désir que nous pouvons passer à côté du bonheur véritable, tel que les sages l'entendent, parce que nous ne savons pas maîtriser nos désirs et nous sommes mus par des désirs qui peuvent nous entraîner vers beaucoup de souffrances et à commettre des actes négatifs. Le premier à vraiment souligner l'ambivalence du désir, c'est le Bouddha. Le Bouddha est donc un sage indien qui, au VIe siècle avant notre ère, il avait une vie princière, donc il a connu, le désir. Il avait d'ailleurs une vie dans laquelle tous ses désirs étaient exaucés d'une certaine manière, puisqu'il était prince, il avait de la richesse, il avait une femme, il avait une vie très confortable. Et en même temps, il sentait la vacuité du désir. Il sentait à quel point le désir nous entraîne toujours vers le désir du plus, c'est le toujours plus. Et donc, face à ce constat qu'il a lui-même expérimenté, il a recherché une vie ascétique. Il a quitté le palais princier et pendant des années, il a mené une vie totalement ascétique de renoncement à tout désir, à tout plaisir. Et il a eu enfin, après une dizaine d'années, une illumination dans laquelle il a compris comment se libérer, puisque nous avons déjà évoqué le fait que dans le monde indien, il s'agit de libérer son esprit de l'illusion pour atteindre l'éveil, pour atteindre ce que la libération, telle que les hindous en parlent, ce que le Bouddha va appeler le nirvana. Et donc, pour atteindre cet état-là, il faut prendre conscience de qui nous sommes vraiment, de notre nature profonde. Et il faut surtout ne plus, pour le Bouddha, être mu par cette tyrannie du désir. Et en même temps, le Bouddha dira qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse qui a été aussi le sien. Il ne faut pas non plus tomber dans une répression totale de tous les plaisirs et de tous les instincts, ce qui est le cas de l'ascétisme radical qu'il a vécu. Il va prôner une voie du juste milieu. Et dans cette voie du juste milieu, ce qui est quand même central, c'est la question du désir. Il s'agit pour le Bouddha de constater ce qu'on appelle la première noble vérité de son discours qu'il donnera à ses premiers disciples. Dans ce premier discours, il va dire que tout est souffrance. C'est le constat que nous faisons. Nous avons toujours quelque chose qui nous fait souffrir. Nous souffrons de ne pas posséder ce que nous désirons. Et quand nous avons quelque chose, nous avons peur de le perdre. Et donc, la souffrance est constamment présente dans l'existence humaine. Et pour atteindre le bonheur suprême, il s'agit effectivement d'éteindre la soif qui est à l'origine du désir, qui fait que nous désirons toujours quelque chose. Et donc, tout le chemin ensuite du bouddhisme, à travers la troisième, quatrième noble vérité, le noble chemin octuple, consiste à éliminer la soif de manière à ne plus être dans la souffrance. Donc voilà, c'est pour ça que le bouddhisme est une grande sagesse de l'ataraxie, de la paix intérieure. Il s'agit de désirer moins ou de beaucoup mieux maîtriser ses désirs pour ne plus souffrir et être dans la paix intérieure, ne plus être troublé par tout ce qui peut nous attacher. Et c'est une philosophie profonde du détachement. Il s'agit véritablement de pouvoir user des choses sans s'y attacher, de pouvoir avoir toujours une distance intérieure. Et donc le désir qui est dénoncé, c'est un désir attachement. Le Bouddha ne nie pas qu'il y a des désirs qui sont nobles. Par exemple, le désir, et c'est le plus important, de progresser dans le dharma, c'est-à-dire le chemin, la voie spirituelle. Donc tout désir qui vise à un progrès spirituel est bon. Mais tout désir qui vise à posséder des objets ou des personnes est mauvais. Donc il s'agit d'avoir un discernement sur nos désirs et le Bouddha considère qu'il est plus facile de mener cette voie de sagesse lorsqu'on est moine que lorsqu'on est marié, qu'on est dans le monde, qu'on est attaché à sa femme, à ses enfants ou à son mari, qu'on est attaché à son métier, à sa réputation. Et donc, il dit l'attachement est totalement présent dans la vie mondaine. On est attaché à tout. Et donc, si on veut vraiment atteindre l'éveil le plus vite possible, et notamment en cette vie, il vaut mieux une vie monacale. C'est pour ça qu'il considère que c'est la voie royale vers l'éveil et qu'il propose à ses disciples d'être moines, de quitter le monde et de mener une existence simple, alors qu'il n'est pas de l'ascèse radicale. On peut manger, avoir un peu de plaisir à manger, on peut effectivement avoir de la joie dans des choses simples de la vie. Ça rejoint tout à fait l'épicurisme hein, comme mode de vie frugal, simple, dans la modération, le juste milieu, éviter les excès, que ce soit les excès du plaisir ou les excès de l'ascèse. Mais en même temps, le but, c'est quand même d'arriver à un détachement dans lequel on est libre intérieurement et on n'est plus prisonnier, malheureux à cause de nos désirs. Et puis il y a un désir très important effectivement aussi que souligne le Bouddha et qu'on expliquera de nos jours très bien à travers la pensée de René Girard, c'est le désir mimétique. C'est-à-dire que non seulement on désire tout un certain nombre de choses qui correspondent à nos besoins naturels, mais on désire aussi des choses superflues ou totalement inutiles, non pas parce que nous en avons besoin ou que nous en ressentons un désir profond, mais simplement parce que les autres le possèdent. Et par exemple, on voit un enfant, il peut avoir tous les jouets du monde. S'il y a un autre enfant qui a un seul jouet qu'il n'a pas, c'est celui-là qui voudra. Et c'est dans le cœur de l'être humain. C'est-à-dire que nous avons toujours cette envie, ce désir de posséder ce que les autres possèdent. Et des gens peuvent être très très heureux avec peu de choses. Et puis s'ils vont voir à la télévision qu'il y a des gens qui vivent autrement, ils vont se mettre à désirer ce mode de vie. Du coup, ils vont être malheureux de leur propre mode de vie. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Afrique, d'Asie, etc. avec la télévision et qui secrète finalement une frustration chez des gens qui savaient se contenter de ce qu'ils avaient. Donc on est toujours en train de désirer autre chose. C'est pour ça que saint Augustin dira cette phrase célèbre « Si tu veux être heureux, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que tu possèdes déjà. »
Cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours sur le site de France Culture. Et dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Excellent dimanche à tous.